Retourne.
Action, portée !
Moi, je veux du féroce actualité.
Faut pas de vraies informations pour vendre un journal.
Je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ?
Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma.
Hello, hello les amis, et non, vous ne vous trompez pas, il est vendredi 17h et c'est bien Super 16. Alors on est parti pour 16 minutes d'actualité ciné. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, c'est moi, Antoine Corté de Bulle de Culture, qui tiendrai les rênes de cette émission un peu spéciale.
Bah ouais.
C'est sûr, il fallait être parti en pèlerinage dans une autre dimension, ou alors n'avoir écouté que ces derniers albums de Johnny Hallyday pour ne pas avoir entendu le retour du Jedi, peut-être pas, mais de Star Wars, les derniers Jedi, l'épisode 8. Alors, pour m'accompagner, j'ai été le chercher, non pas dans une galaxie très lointaine, mais juste aux abords du périph. C'est bien sûr Alexis Yomé, notre expert Star Wars, qui écrit pour Revue et Corrigé. Salut Alexis.
Salut Antoine.
Ça va ?
Bah ouais, comme si je n'étais pas là dans Super 16 chaque semaine.
Non mais écoute, il faut bien se récupérer des fois. Hein. Alors, est-ce qu'on parle un peu de Star Wars sur Revue et Corrigé ?
Pas tant que ça, puisque c'est trop d'actualité pour le coup. C'est trop d'actualité, bon. C'est pas assez patrimoine, mais on en parlera peut-être dans les prochaines années.
En tout cas, vous l'aurez compris, cette semaine, c'est une spéciale Star Wars Super 16, avec effectivement le hashtag Star Wars, le hashtag Les Derniers Jedi. Donc, ça y est, Alexis, on a pu le découvrir.
Oui.
Il est sorti mercredi dernier. Le Star Wars nouveau est arrivé. On l'attend un peu comme le Beaujolais hein, maintenant. Et il y a toujours un culte du secret autour de Star Wars. Donc effectivement, on va pas trop en dire. On va garder un peu le mystère pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu. Donc il n'y aura pas de spoil ou en tout cas...
de spoil des spoils.
Bah des spoils, voilà.
Spoilers.
Alors, peut-être on va repositionner l'épisode 8 qui suit directement l'épisode 7, c'est ça Alexis ?
Ah, c'est vraiment une suite directe, puisque en fait, J.J. Abrams nous laissait à la fin de l'épisode 7 sur un gros climax avec trois points de suspension, puisque on avait d'un côté Poe Dameron qui est incarné par Oscar Isaac, Finn qui est incarné par John Boyega et Rey incarné par Daisy Ridley qui se séparaient tous les trois vers différents coins de la galaxie. Et en fait, l'épisode 8 suit cette idée-là, en gros, avec cette construction en échiquier, où on passe de l'un à l'autre à travers tout le film. C'est pour ça qu'il dure un petit peu 2h30 et que beaucoup le comparons à l'Empire Contre-Attaque, qui était aussi de la même construction. Si on passait avant du Faucon Millennium à Dagobah et ainsi de suite. Là, c'est pareil, on passe de l'un à l'autre jusqu'à ce que, sans trop de spoiler, ils se retrouvent tous à la fin.
Ah là là.
Ah là là, ça commence.
Pour les novices un peu comme moi, c'est vrai que moi, ça me perturbe un peu toute cette trilogie et j'ai du mal à retrouver ma géographie. Est-ce que tu peux nous expliquer, Alexis, ce qui se passe, c'est-à-dire où est-ce qu'on se situe par rapport à la première trilogie? Est-ce qu'on est dans le même cosmos? Comment ça se fait que le nouvel ordre, le premier ordre, revienne après que l'Empire ait été décimé? Ça, j'ai du mal à comprendre, sachant qu'on a une technologie assez similaire. Dans l'épisode 7, on retrouve un semblant d'étoile noire. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait?
Alors, je vais essayer d'être le plus clair et le plus précis possible, puisque dès le départ, la construction Star Wars, elle est assez étrange, puisque George Lucas a commencé son histoire avec le récit du milieu, puisque quand il arrivait à l'Empire Contre-Attaque, parce que le premier Star Wars c'était le premier Star Wars et puis c'est tout, quand il arrivait à l'Empire Contre-Attaque, le film s'appelait Star Wars l'Empire Contre-Attaque, c'était épisode 5. Donc bizarrement, tout d'un coup, on découvrait qu'il y avait des épisodes 1, 2, 3 qui étaient à venir, on ne sait pas quand. D'ailleurs, George Lucas n'a failli ne pas les faire, finalement il les a fait à la fin des années 90. Et donc on a d'abord commencé par une histoire au milieu. Puis, on a eu la prélogie, donc en 99, 2002, 2005, qui, eux, reprenaient le début de l'histoire 30 ans avant. Ça veut dire qu'avec La Menace Fantôme, qui a été diffusée il n'y a pas longtemps sur TF1, on a fait un bond de 30 ans en arrière pour redécouvrir comment l'Empire est arrivé dans la galaxie, puisqu'avant, c'était la République, comment les Jedi ont été décimés, puisqu'après, c'était Dark Vador et l'Empereur qui dominaient. Enfin, voilà, on reconstruisait toute l'histoire et le parcours d'Anakin Skywalker qui deviendra...
Des péripéties évoquées dans la première trilogie, du coup, qui ont été un peu plus approfondies dans la seconde.
Exactement. Donc après, ça faisait une construction un petit peu anachronique, mais ça faisait épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça faisait une histoire complète avec la saga des Skywalker. Et depuis qu'il l'a revendu en 2012, on s'est dit, forcément, il y aurait une nouvelle trilogie, un épisode 7, 8, 9, qui prolongerait cette histoire. Sauf que les acteurs ayant vieilli, il y a un gap pareil de 30 ans étrangement, entre le retour du Jedi et la ressortie, et la sortie du réveil de la Force. Donc, autant de la menace fantôme, on revenait 30 ans en arrière, mais on découvrait de nouvelles planètes, nouveaux vaisseaux, etc. Que là, c'est J.J. Abrams qui s'en est occupé au scénario et la réalisation. Et plutôt que d'essayer de nouvelles choses au risque de froisser les fans, parce que il y a énormément d'argent derrière, on a dit, on va reprendre les mêmes costumes, les mêmes principes, les mêmes séquences. Il reprenait des séquences à la fois comme forme de clin d'œil, mais il s'est pris un petit peu les pieds dans le propre tapis qui s'est tissé, en faisant trop de références, et c'est pour ça que beaucoup de monde trouvait que l'épisode 7 était une sorte de remake involontaire de l'épisode 4.
Et du coup, où est-ce qu'on est là? Parce que je vois pas de Coruscant, de Tatooine. Oui, on est dans le même système cosmos.
Oui, on est toujours dans la même galaxie, mais on explore de nouvelles planètes. Après, c'est un choix de ne pas revenir sur les anciennes, celles qui ont déjà vécu, parce qu'après, c'est vrai que Coruscant, c'était la place centrale de la prélogie, justement, des épisodes 1, 2, 3, parce que c'est là où tout se passait au niveau politique. Donc, c'était forcément un endroit incontournable. Après, Tatooine, c'est une planète qui est très liée à l'histoire des Skywalker. Là, dans l'épisode 8, déjà à la fin de l'épisode 7, c'est la planète Acto où a décidé de s'exiler Luke Skywalker. Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être qu'on le saura dans l'épisode 8, c'est pour ça que je ne le vous dis pas trop. Là, on essaie d'aller un petit peu ailleurs, de découvrir autre chose. Est-ce que Rian Johnson explore de nouveaux univers? Oui et non. Il y a un gros bestiaire avec plein d'animaux différents, notamment les fameux porgs dans l'épisode 8. Enfin voilà, on explore de nouvelles pistes et je trouve que au moins Rian Johnson tente de nouvelles choses, contrairement à Abrams qui faisait beaucoup de repompages qui étaient à la fois un peu paresseux et très réconfortants pour les fans.
Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée. Et au-delà de ça, autre chose de tout à fait exceptionnel.
Alors effectivement, pour cet épisode 8, exit J.J. Abrams, bonjour à Rian Johnson, à qui l'on doit notamment Looper avec Bruce Willis, ou la série Breaking Bad. Donc il a
pas la série, il a réalisé quelques épisodes, mais des très bons épisodes de la série.
Voilà, les épisodes emblématiques, j'ai envie de dire. Il a une culture finalement assez éloignée d'univers de Star Wars, il a jamais été trop dans l'univers science-fiction, même si Looper était un petit peu fantaisiste. Alors pourquoi, selon toi, l'écurie Lucasfilm, qui sont les producteurs du film, a confié la maîtrise totale à Rian Johnson de ce nouvel opus, sachant qu'il a été également au scénario et à la réalisation.
Je pense qu'il confie déjà la réalisation à des fans, donc faut forcément connaître un minimum l'univers avant de mettre les pieds dedans. Au départ, d'ailleurs, J.J. Abrams avait refusé de réaliser Star Wars, puis on est revenu à la charge auprès de lui en lui disant « Mais si, t'es sûr que tu veux pas ?» Puis finalement, il avait accepté. Pareil, Gareth Edwards qui s'est occupé de Rogue One, lui aussi c'est un grand fan de Star Wars, mais il a réussi à porter un petit peu sa propre patte, puisque tous ces réalisateurs-là, même Rian Johnson, ils viennent du cinéma indépendant américain. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'habitude des grosses machines hollywoodiennes. Et c'est un petit peu la tendance actuelle, parce qu'on voit ça aussi chez Marvel, où il y a Kevin Feige qui dirige Marvel Studios, qui va chercher des jeunes réalisateurs. Alors, d'un côté, c'est une super opportunité pour ces jeunes pousses, pour faire des gros films qu'ils n'auraient jamais espéré faire dans leurs rêves les plus fous. Mais en même temps, il y a un petit côté cynique en se disant, le gros producteur qui a tout l'argent et tous les pouvoirs, le fait qu'il ramène un petit novice dans son escarcelle, si le petit novice il ouvre sa gueule, il a droit de rien dire puisque il a tout approuvé justement et le producteur est en fait tout puissant.
Encore.
Exactement. Que Kathleen Kennedy, elle est prête encore un petit peu à l'ouverture, à des propositions. Après, ça peut se retourner contre elle, notamment sur le Han Solo où les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller ont finalement été virés puisqu'ils avaient une vision trop différente de la vision qui était voulue par Kathleen Kennedy, qui a fini par confier la réalisation à Ron Howard.
Alors en tout cas, l'alchimie est plutôt bien passée entre Rian Johnson et Lucasfilm, puisque la société a annoncé une nouvelle trilogie récemment.
Exactement.
Et puis on apprend que effectivement ils vont faire appel à ce réalisateur pour continuer la suite. Est-ce que tu as décelé un petit peu des pistes sur cette nouvelle trilogie dans le film là que tu as vu?
Alors justement là, s'il faut être vraiment très clair, c'est qu'en fait cette nouvelle trilogie, ce ne seront pas des épisodes 10, 11, 12. Ça, faut être très clair là-dessus. Rian Johnson l'a d'ailleurs reprécisé. Ce serait une trilogie. Ce seront donc trois films qui raconteront une seule et même histoire dans l'univers Star Wars, mais ça peut être avant, très longtemps avant, comme après, bien après. Après, c'est ça qui est extraordinaire, on l'a appris récemment, c'est que Rian Johnson a juste pitché une idée. Ça veut dire qu'il n'a même pas de scénario, il n'a rien sur le papier. C'est juste une idée qu'il a proposée à Kathleen Kennedy et même Bob Iger, qui est patron de chez Disney. Et les gars, ils ont fait OK, on signe. Parce que ça s'est tellement bien passé sur l'épisode 8. Et il savait même de base qu'il ne serait pas impliqué dans la constitution de l'épisode 9. Donc il s'est dit, ah, c'est dommage d'en rester là. Même Kathleen Kennedy était d'accord pour qu'il revienne. Donc finalement, il va préparer en tout cas le scénario, les arcs de la trilogie complète, réaliser le premier épisode. Après le deuxième, troisième, on ne sait pas. Même les dates de tournage, tout ça, rien n'a été encore planifié. Donc on a
même
encore
les personnages, j'entendais Ray qui disait, enfin, l'actrice Désirée qui jouait. Voilà, qui nous disait je ne vais pas participer à la trilogie suivante, quoi.
Voilà, parce que en fait on ne sait pas si ça se passera peut-être 1000 ans, 2000 ans avant ou après, ou en parallèle des autres films. C'est pour ça, c'est 3 points d'interrogation cette trilogie.
Quelque chose sommeillait en moi depuis toujours. Ça s'est réveillé. Et j'ai besoin d'aide.
Alors, Star Wars, c'est toujours un énorme événement cinématographique, peut-être le plus gros que je connaisse, moi. Je sais pas si t'en connais qui sont aussi importants que Star Wars. Au niveau des premiers retours presse, on les attend. Mm-hmm. C'est globalement positif sur le film. Je lisais notamment Le Figaro qui parle d'une épopée pop et flamboyante, Le Point qui salue une nouvelle ère dans les blockbusters, Le Monde qui nous dit nouvelle force pour une vieille saga. J'ai été voir aussi du côté de Rotten Tomatoes, on en parle souvent, et là c'est une belle tomate fraîche puisque c'est 94% d'avis positifs. Donc c'est assez gros, quoi. Mmh. Alexis, t'es d'accord avec tout ça?
Je suis pas aussi catégorique et dithyrambique sur le film. J'ai bien aimé le film par rapport au set que j'avais profondément détesté. C'est un film qui est quand même audacieux, mais sans être ambitieux. Ça veut dire qu'il a quand même des idées, il prend certains risques que moi, au moins, je loue à ces réalisateurs-là qui osent des choses, qui au moins ont l'audace de proposer des choses nouvelles dans un univers qui est pourtant méga calibré, avec en plus 30 exécutifs derrière leur dos qui leur dit quoi faire. Que là, au moins, il essaie des choses. Après, il va pas jusqu'au bout, il fait des petits allers-retours, il y a certains choix qui sont discutables. Après, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que le premier Star Wars, il avait été détruit par la presse quand il était sorti en 77, parce que bon, il était pas du tout en accord avec un film pour enfants, proposer ça comme ça au grand public. La presse regardait ça un petit peu de loin. Finalement, après l'Empire contre-attaque, Retour du Jedi, ça avait convaincu. La prélogie, ça avait vraiment moyennement convaincu la presse. À chaque fois, chaque nouveau film, c'était pas forcément auprès de la presse qui trouvait du soutien, que là, bizarrement, depuis l'épisode 7, Rogue One, tout ça, la presse finit par accepter chaque film comme un nouveau monument de l'univers.
Bon alors, moi, ce que j'en ai pensé, Alexis, puisque tu me le demandes...
Comment tu pensais ?
Voilà. Du coup, écoute, moi, je te rejoins un peu. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça assez bien. En fait, j'ai été très déçu, comme toi, par l'épisode précédent. Je me suis dit, c'est pas mal. Il y a des choses, il y a des directions étonnantes. Donc, du coup, j'ai vraiment vécu un bon moment. Après, effectivement, il y a des trucs un peu too much, des scènes un peu abracadabrantes. Et puis... Finalement, bon moment assez long, 2h30 quand même, on aurait pu un peu plus couper.
Le début est assez laborieux, faut dire.
Exactement. Et puis finalement, des prises de position qui vont mettre un peu dans la difficulté, pour être poli, J.J. Abrams.
Il va vraiment le mettre dans la merde, parce que c'est vrai qu'il passe quand même la moitié de son film à nettoyer tout ce qu'il avait posé au fur et à mesure. Ça, les gens le verront très clairement, mais c'est vraiment d'une manière nonchalante que Rian Johnson le fait, quoi. Il nettoie, mais c'est genre, il passe tout à la poubelle. Et le problème, c'est que quand t'arrives à la fin de l'épisode 8, c'est vraiment, JJ, démerde-toi, hein, bon courage pour la suite. Après, justement, il va falloir un sacré courage à Abrams pour proposer quelque chose de neuf, parce que là, vraiment, il peut plus faire comme dans l'épisode 7 en se reposant sur ses lauriers.
Il est temps d'accomplir ton destin.
J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.
Alors, quitte à dynamiter un peu notre émission Super 16, est-ce que t'as quelque chose à aller voir ce week-end?
Alors pour le coup à voir ce week-end, malheureusement je crois qu'il y a Star Wars qui est un petit peu dans toutes les salles. On peut faire comme le Grand Rex par exemple, qui est un cinéma qui je crois qu'il y a 8 salles, mais les 8 salles diffusent Star Wars. Donc on a une séance toutes les 5 ou 10 minutes à peu près.
Donc on peut aller le voir plusieurs fois dans le week-end.
Exactement, et puis même on peut regarder juste les 20 premières minutes, on sort et on va avoir une autre séance pour revoir les mêmes 20 premières minutes. Enfin c'est quelque chose d'un petit peu fou. Non, le film va évidemment vampiriser tous les cinémas, en tout cas tous les multiplex jusqu'à mi-janvier au minimum. J'espère qu'il bougera un petit peu le box-office français d'ailleurs, qui est un peu, voire beaucoup morose au niveau des chiffres, parce que par rapport à l'an dernier, il n'y a pas eu autant de gros succès que ça. Après, comme je l'ai bien aimé, je suis prêt à dire, allez voir Star Wars Les Derniers Jedi en salle, parce que même visuellement, sur grand écran, ça vaut le détour quand même.
J'ai pas grand chose à rajouter. C'est vrai qu'il faut peut-être pas passer à côté de La Deuxième Étoile, qui était un petit film de Lucien Jean-Baptiste, qui est la suite, une suite aussi de La Première Étoile, qui raconte une famille qui vont au ski, et du coup avec plein de péripéties, et donc du coup c'est assez drôle et c'est une bonne comédie française pour cette fin d'année. Voilà, c'est aussi ce que je conseillerais avec un petit peu Star Wars.
C'est une bonne contre-proposition.
On n'a pas tout dit sur Star Wars, évidemment, sur cet épisode 8. On va beaucoup en parler, je pense, sur cette antenne. Mais bon, les 16 minutes arrivent si vite. Moi, je suis un peu KO, je te dis. Je te propose la semaine prochaine de reprendre les rênes de l'émission.
Ok.
En attendant, effectivement, on retrouve ce Super 16 en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les autres plateformes. On plonge aussi dans l'univers Star Wars avec notre compte Twitter, Super 16. Vous pouvez poser vos questions. On y répondra, évidemment, et on suivra vos réactions. En attendant, on se donne aussi rendez-vous sur Bulle de Culture et sur revuesetcorrigées.net. Et puis, la semaine prochaine, même heure, même antenne, avec Alexis Yomé en chef d'orchestre.
Ah ouais.
Dernière de l'année.
Pour le bilan.
Exactement, on fera un petit bilan. Allez, à la semaine prochaine.
Bon week-end.
Ça tourne.
Féroce Actualité.
Faut prendre vos informations pour vendre un journal.
Je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine?
Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma.